les miennes de la SF.
Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, Flo toute seule, car Alice est malade, va vous parler de la 37e convention française de science-fiction et de la première convention française de fantasy qui se sont déroulées simultanément fin août à Grenoble. Les conventions sont un rendez-vous chaleureux entre amoureux du même genre. On y retrouve des copains et on s'en fait de nouveau, de préférence autour d'une bonne bière. Mais il n'y a pas que ça. Il y a des tables rondes, par exemple celle concernant la société de contrôle.
Donc une première partie qui sera l'outillage du contrôle. Donc quelle forme prend le contrôle de nos jours? La demande sociale de contrôle, parce qu'en fait je me suis dit, est-ce que finalement les individus n'ont pas besoin du contrôle? Est-ce que sans le contrôle ils ne seraient pas finalement livrés à eux-mêmes et incapables de s'émanciper? Et puis enfin un troisième point qui est la liberté. Quelles sont les alternatives et de quelle manière peut-on résister au contrôle?
Des conférences, par exemple pour le Pan Fantasy, une conférence très intéressante sur les Palantirs de Tolkien, et du côté science-fiction, une conférence également fort intéressante sur les nanotechnologies par Roland Lehoucq.
On va voir que la problématique des nanotechnologies, elle aura à voir avec, une problématique entre inerte et vivant, qui va interroger la limite, la frontière entre inerte et vivant.
J'aurais voulu vous présenter plus avant les conférences et tables rondes, mais malheureusement, comme vous l'avez entendu, mes enregistrements ne sont pas très bons. Qu'à cela ne tienne, j'ai fait un ensemble de petites interviews que je vais vous livrer les unes à la suite des autres. Outre Alain Damasio, qui participait à la table ronde sur les sociétés de contrôle, nous avions plusieurs auteurs, Raymond Milesi, Pierre Stolz, Timothée Ray, Jean-Jacques Régnier. Qui y avait-il? Sylvie Lainé, Roland Wagner, Sylvie Denis. Il y avait également Laurent Weil, Laurent Gidon. Je suis sûre que j'en oublie. Hugo Bellagamba, bien sûr, qui a reçu le prix Ronnie Aîné. Et Laurent Pougeois, qui a écrit un roman bien agréable à lire qui s'intitule L'Ange Blond. Et je lui ai demandé de nous en parler un petit peu.
L'Ange Blond, c'est une uchronie. Moi, mon point de divergence, il se situe à la période napoléonienne, avec un amiral de Napoléon qui s'appelait Latouche Tréville, qui était le meilleur amiral de Napoléon, qui dans notre histoire est mort à Toulon en 1804, et qui dans mon histoire se remet de sa fièvre à Toulon, justement. Donc garde le commandement de la flotte de Napoléon. Et vu que c'est le meilleur amiral de Napoléon, lui, il ne se retrouve pas à Cadix, et donc il n'y a pas Trafalgar. Donc Napoléon conserve sa flotte, et vu qu'il conserve sa flotte, il peut mener à terme son projet de descente en Angleterre. Et il boute l'Anglais hors de l'Angleterre, et s'en est fini des coalitions contre Napoléon, puisqu'ils en sont les principaux financiers et instigateurs. Et il arrive à installer un grand empire européen. Et donc, en fait, moi, mon histoire, elle se passe en 2008. On va fêter le bicentenaire de la descente en Angleterre. Donc, c'est toujours une descendante de Napoléon à la tête de l'Empire, en l'occurrence une impératrice, Caroline Bonaparte. Et l'agence centrale impériale avant d'un sombre complot qui semblerait se tramer. Et le complot semblerait se monter à l'intérieur de la grande réception qui va se faire à l'occasion du bicentenaire. Donc ils vont embaucher, un peu contrainte forcée, mon héroïne qui est une ancienne de la Légion impériale, qui est une forte tête, qui a des problèmes avec l'autorité, mais sur laquelle on a des moyens de pression, pour s'insérer dans l'équipe de la réception, et elle a une semaine pour démanteler le complot. Voilà, donc c'est très cinématographique, je dirais, beaucoup de rythme, très bondissant, parce que j'ai un peu de travail aussi dans le domaine de l'image aussi, donc je voulais que ça soit vraiment rythmé, visuel, pas un scénario en soi, parce que ça reste écrit, mais qu'il y ait ce côté enlevé, quoi. Voilà.
Pour ce qui est du côté cinématographique enlevé, force est de constater que le roman est parfaitement réussi et il n'a pas usurpé son prix Futurial 2010. Le seul bémol que j'y mettrais, c'est dans l'héroïne qui est trop tout. Elle est belle, elle est intelligente, elle est surdouée, elle réussit tout ce qu'elle fait, elle a toujours raison. Et on s'apprête, malgré une expérience de lecture tout à fait agréable, comme je l'ai dit tout à l'heure, à refermer ce roman pour passer à autre chose. lorsque, à la toute fin, il y a un rebondissement qui vous fait attendre le second avec une grande impatience. Et j'attends le second avec une grande impatience. Dans les travées de la convention, il y avait également une petite maison d'édition que j'avais déjà remarquée à cause de sa collection de nouvelles présentées en mini-bouquin qui s'intitule « Souffle du rêve ». Souffle du rêve est une maison d'édition qui a été créée il y a 4 ans par Bernard Héninger, au départ pour éditer l'un de ses romans fantastiques. Mais rapidement, il a fait de l'édition d'autres auteurs et il ne s'auto-édite plus. Et pourquoi je vous en parle? Eh bien parce que cette année, il a tapé un grand coup. Il avait déjà édité 3 nouvelles d'Ursula Le Guin dans sa collection mini. Et cette fois-ci, il s'est attaqué à un recueil entier.
J'adore Ursula Le Guin, donc j'étais allé voir sur son site, voir s'il y avait des choses que personne n'avait encore traduites. Voilà. Et en fait, à force de comparer, je me suis aperçu qu'il y avait plusieurs recueils de nouvelles d'elle qui n'ont pas toujours pas été traduites. Donc c'est très étonnant parce qu'il y a quand même des très grands éditeurs en France qui sont passés avant moi et qui ont largement priorité. Et quand j'ai posé la question, en fait, personne ne s'était occupé de ce recueil-là. Alors peut-être elle est moins reconnue aujourd'hui, donc c'est les lecteurs, les connaisseurs réagissent très favorablement quand j'en parle, quoi. Mais elle n'est pas connue du grand public, je pense, aujourd'hui. Donc je me suis lancé sur ce recueil, quoi, Le pêcheur de la mer intérieure. Puis ça s'est monté petit à petit, parce que pour moi, c'est une expérience qui était nouvelle de bout en bout. Donc trouver une traductrice en qui j'aurais confiance, renouer un contact plus régulier avec Ursula Le Guin, qui nous a un peu aidé sur les points difficiles de traduction. Et puis petit à petit, en fait, on s'est aperçu qu'on était sur un recueil très important. Il précède un recueil qui a déjà été édité, qui est l'anniversaire du monde. Donc, bon, en plus, ça a été publié chez Lafon. Donc, on a l'impression de marcher dans des bottes qui ne sont pas les nôtres, quoi. Puis avec tout le jeu de devoir raccorder, par exemple, le langage de la traductrice avec le traducteur précédent.
C'est Ursula Le Guin, ses nouvelles sont merveilleuses, c'est très beau, les mots et les noms sont magnifiquement choisis, c'est émouvant, c'est plein de chaleur humaine, c'est plein d'intelligence, c'est plein d'ouverture d'esprit, c'est Ursula Le Guin, quoi. Donc si vous aimez Ursula Le Guin, précipitez-vous sur ce recueil et vous le trouverez sur
www.soufflerev.fr.
D'accord. Je vous entends d'ici. Vous vous dites, au départ, elle nous dit qu'il y a la première convention de fantasy et elle ne nous parle que de SF. Ne râlez pas, ne râlez pas, je vais vous parler de fantasy. La première convention française de fantasy a été organisée par l'association Elbakin, qui dérive du site elbakin.net, pendant fantasy de Actu SF pour la science-fiction. J'ai demandé à Guy Lossen, un nom elfique qui signifie étoile neigeuse, de me convaincre de lire de la fantasy. Plus précisément, je lui ai demandé ce qu'il y avait d'autre que de la fantasy classique, à savoir l'histoire éternelle du héros orphelin qui suit une quête et qui finit par vaincre les dieux, avec plein de magie qui lui tombe dessus comme par miracle. Et il m'a donné quelques pistes.
Bon, je dirais qu'il y a deux tendances. Donc, d'une part, on peut avoir des auteurs qui ont tendance à respecter un univers, on va dire, de fantasy épique, donc assez classique, assez moyenâgeux, mais qui, dans le ton, sont beaucoup plus nerveux, violents, comme Richard Morgan, qui justement faisait de la SF, mais qui s'est essayé à la fantasy et écrit un classier. Justement, là, il bouscule là, tout ce qui est cliché. Ou Joe Abercrombie. Sinon, on a aussi donc tout ce qui est New Weird, donc avec Mieville. Donc là aussi, il y a beaucoup de discussions parfois. Est-ce que c'est de la fantasy, est-ce que c'est de la SF?
Oui, parce qu'il est très dans à la limite.
Voilà, il est dans l'entre-deux. Bon, mais vu qu'il remporte des World Fantasy Awards, on va dire que c'est de la fantasy, ça nous arrange. Peut-être que pour les lecteurs de SF, ça peut avoir un côté plus rigoureux et moins Deus Ex Machina. dès qu'il y a un souci, quoi. Il n'y a pas une orbe magique qui apparaît pour sauver les héros, quoi. Mais on a l'habitude des clichés, et justement, d'être mal considéré.
Bah, mal considéré, oui et non, parce que de toute façon, les ventes de la fantasy n'ont rien en commun avec celles de l'ASF.
Disons que ce qui marche, c'est clairement la fantasy classique, quoi, ouais. Celle que les auteurs un peu différents ont forcément plus de mal à percer. La diversité en fantasy existe, mais il faut avoir la démarche d'aller la chercher. Alors que je pense qu'en SF, on peut être plus facilement en contact avec un éventail plus large.
Si tu avais un roman à nous conseiller, quelque chose que tu as particulièrement apprécié, ce serait quoi ?
Dernièrement, j'ai beaucoup aimé Lamentation chez Bragelonne, donc c'est de Ken Scholes. Et j'ai vraiment beaucoup aimé parce que justement, ça sort un peu des sentiers battus de Bragelonne, qui a justement tendance à faire beaucoup de choses, pour le coup, très axées sur la fantasy épique classique. Et là, justement, ils sont un peu sortis de leurs habitudes, et j'espère que le roman dépassera le succès d'estime.
Eh bien non, je ne m'arrête plus. Je vais encore vous parler de fantasy avec le projet Les Chimères de Mirinar. Les Chimères de Mirinar est un cycle de dark fantasy western, coécrit par Raphaël Lafarge et Vincent Mondiaux, et illustré de fort belle manière par Manu Le Weber. Cette dark fantasy western présente des éléments de science-fiction avec des créatures cybernétiques, une approche science-fictionnelle de la magie et une jolie ambition dans l'approche fantasy.
La déconstruction, c'est prendre des éléments donc assez classiques, des archétypes souvent, ou des visuels forts, et les insérer dans un contexte réaliste, et voir déjà les causes qui ont produit ces éléments, et également les conséquences. Et ouais, on a fait de la déconstruction pour beaucoup d'archétypes de la fantasy. On a extrapolé, on a placé ça dans un contexte pluraliste, on a essayé de réfléchir sur les conséquences de telle ou telle chose. Notre approche de la magie est plutôt science-fictionnelle que fantasy. C'est pas une magie inexplicable, c'est une magie très scientifique, très précise et finalement très discrète. C'est des éléments subtils qui sont changés. Bon, après, les effets magiques peuvent être amplifiés, mais la magie fonctionne de manière très science-fictionnelle, vraiment. Et placée dans un contexte réaliste, on observe ses conséquences à un niveau social. Donc je pense que Mirinar tient aussi beaucoup de la science-fiction. Je ne parle même pas des créateurs artificiels du premier roman, ou de ce méchant, Tilliam Vore, qui a un caractère biomécanique.
Sur le site www.mirinar.com est disponible le début du deuxième tome, qu'on peut lire donc en ligne. Le premier tome est désormais indisponible. J'espère pour eux qu'il s'agit d'un signe de peut-être une édition papier. Les volumes peuvent être lus indépendamment, bien que l'ensemble constitue un cycle à part entière. Personnellement, j'ai lu le premier chapitre, j'ai trouvé ça pas mal, mais je ne suis pas allée plus avant, donc à vous de vous faire une idée. À tout seigneur, tout honneur, nous allons terminer ce podcast par l'interview d'un des invités, Alain Damasio. Nous lui avions consacré une émission en 2006 à propos de la Horde du Contrevent. Si vous voulez l'écouter, cette émission est désormais disponible sur les archives des Lyonnes de l'ASF à l'adresse Lyonnes Archives, tout attaché et au pluriel. Je vous rappelle que Lyonnes prend un Y. .podomatique.com. Qu'a donc fait Alain Damasio pendant tout ce temps ?
Ici, il s'est passé que des trucs horribles.
Eh bien, il a écrit, mais il n'a pas travaillé à son prochain roman, car il a besoin d'une grande période de maturation et d'une immersion totale pour écrire. Il s'est consacré à la scénarisation de séries télé, qui hélas ne verront pas le jour, et d'un jeu vidéo, cyberpunk politique, qui a trouvé un financement auprès de Sony et dont il ne pourra hélas pas nous parler. Ce jeu vidéo est toujours en développement, mais Alain Damasio l'abandonne pour se consacrer à son prochain roman. Et il sera remplacé par Stéphane Beauverger, que l'on connaît aussi et dont vous pouvez également trouver une interview sur les archives des Lyonnes. Bande de petits vénards.
Donc c'est toujours ce même projet d'être imaginaire qui vivent dans l'interstice de la vision humaine et qui développe une énorme capacité à échapper au contrôle et sont toujours dans la fuite quoi. Et ces êtres-là ont un langage à eux quoi. Donc avec des tribus de phonèmes effectivement, avec toute une littérature qui leur est propre quoi, toute une expression qui leur est propre. Donc oui, il y a une grosse recherche aussi expérimentale sur le langage. Ça reste dans le projet. Je pense que ce sera en milieu urbain là en plus. Ce sera dans un futur, mais flou, quoi. C'est un futur flou, vraiment. J'aurai pas de date. On sentira que c'est une société un peu en amont de la nôtre. Mais je vais pas préciser ni de date, ni de lieu, je pense. Je serai dans un sorte de monde comme ça. Tu sentiras que c'est proche de nous, mais pas forcément. J'ai pas envie de faire un truc réaliste ou pseudo-réaliste comme dans la zone dehors où je disais, voilà, c'est 2084, c'est un satellite de Saturne, ça s'appelle Cerclon, comme si ça existait. Non, j'ai envie d'un truc qui soit plus flou, plus flottant sur le cadre.
Et à la fois peut-être plus axé sur ce qu'on vit nous. Est-ce que tu n'as pas envie de
parler? Je reviens à fond sur le politique, mais avec des thèmes différents. C'est-à-dire, ce qui est marrant, c'est que finalement, je retraite en partie les idées de société de contrôle, etc. Mais avec toute l'expérience des 20 ans et en travaillant sur le mouvement, vraiment en revenant sur l'essence du mouvement que je pense avoir raté dans la Horde, parce que la Horde devait travailler là-dessus aussi sur le mouvement, le lien, etc.
Et moi, j'ai ressenti le mouvement. J'avais dit d'ailleurs.
Ouais.
Ouais.
C'est vrai, tu l'avais dit, je me souviens.
Tu vois, ouais. T'as pas totalement raté ton truc.
Ouais, mais au final, je pense que j'ai raté parce que c'est Caracol qui devait vraiment porter ça. Et Caracol, je l'ai fait disparaître à un moment donné parce que j'arrivais plus à le porter aussi avec autant de vivacité, autant de justement de métamorphose que j'aurais voulu avoir. Et là, je vais revenir vraiment sur ces thèmes-là, la vitalité extrême, la capacité de métamorphose, la composition permanente avec l'environnement, avec le dehors, avec les autres. C'est des êtres qui se composent en permanence avec ce qu'ils voient, quoi. Donc ils se transforment, leur corps se transforme constamment, ils n'arrêtent pas de se composer, quoi. Que ce soit avec le minéral, le végétal, l'animal. Et leur identité, donc, elle est pas fondée du tout sur une forme définie, quoi. Elle est fondée sur une force, une capacité à se composer, justement, à s'agencer avec les autres, quoi. Et du coup, pour moi, c'est un thème politique fort. Surtout, comme j'ai dit à la conférence, c'est-à-dire que je considère qu'il y a une sorte de maillage maintenant de contrôle qui est de plus en plus fin, de plus en plus une sorte de nappe qui nous recouvre et qui nous met dans un continuum de traçabilité, de géolocalisation, tout ça. Et du coup, j'ai envie de réfléchir à la façon d'échapper à ça, ou de créer des interstices là-dedans, ou des plis dans cette structure pour pouvoir se loger et continuer à être libre, quoi, et continuer à développer les choses.
Et il y avait quelque chose qui m'avait marqué à Épinal quand tu parlais justement du techno-cocon, de la manière dont les gens se comportent maintenant.
J'aime bien cette idée-là et je trouve que ça va bien en plus avec une classe d'être qui, elle, se composera complètement avec l'extérieur. C'est que les furtifs sont toujours en composition avec l'extérieur, alors qu'aujourd'hui, pour moi, on est une société de plus en plus anthropocentrique où on crée beaucoup de technologies, mais cette technologie nous fait que nous renvoyer à nous, quoi. Tu vois, on est dans une sorte de rétro-feedback permanent où on manipule nos portables, on met nos casques sur la tête, on a nos écrans devant les yeux. On est dans notre bulle de la voiture, etc. C'est-à-dire qu'on est toujours entouré d'un cocon comme ça technologique, qui est extrêmement rassurant, qui est très plaisant parce qu'on pilote tout au doigt et à l'œil, c'est vraiment le cas de le dire, à l'optique et au toucher, quoi, puisqu'on n'arrête pas d'appuyer sur des boutons, de manipuler des. Et puis le monde nous obéit, quoi, tu vois. Mais sauf que ce monde, il s'est réduit au cocon qui est autour de nous, à ce cocon technologique, quoi, tu vois. Et on accède à l'ensemble, on croit accéder à l'ensemble du monde à travers les écrans, à travers Internet, machin. Et on accède, en fait, constamment à des interfaces technologiques, c'est tout. On est entouré de ces interfaces, quoi. Et les furtifs, enfin, tu vois, pour moi, c'est l'esprit de briser ça, quoi, de retrouver un rapport direct au monde qui passe plus forcément par la médiation techno. Et... Je pense que je mettrai le même temps que pour les autres. C'est encore assez ambitieux, il y a beaucoup de thèmes à traiter. C'est encore tout un univers complètement nouveau, quoi. C'est-à-dire que je repars à zéro sur des choses très différentes. Il y a toute l'expérimentation littéraire qui va être très compliquée parce que chaque furtif ayant son propre corpus de phonèmes. Il y aura des phonèmes totems, c'est-à-dire des phonèmes que tu ne pourras pas utiliser. Quoi. Il y a pas, par exemple, certains furtifs ne pourront pas utiliser les ALI, par exemple, d'autres pourront utiliser les T, les P. Et du coup, ça créera des dominantes, des tonalités, des couleurs propres aux furtifs dans leur langage. Mais régler ça d'un point de vue littéraire, c'est compliqué. Quoi. C'est-à-dire que je montrais que selon l'arbitrage de phonèmes que tu fais, tu véhicules des sensations totalement différentes. Quoi. Si tu restes sur les plosives du type Pateke, Bedege, tu vois, les grosses plosives, c'est-à-dire les lettres les consonnes les plus fortes et masculines du français, tu vas véhiculer des affects qui sont assez costauds, assez virils et tout, quoi. Si tu pars sur les L, les M, les N, tu vois, avec des voyelles assez souples, tu vas être sur quelque chose de plus féminin, etc. Donc tu vas véhiculer tout un ensemble de sensations qui est... Et on le sentira immédiatement en lisant tel ou tel phonème, enfin tel ou tel furtif, je veux dire, que tu es dans un certain champ. Donc c'est une lecture aussi du langage, une relecture, comme si je reprenais le langage à la base en disant, regardez les atomes, regardez les couleurs du langage élémentaire, c'est ça quoi. Chaque lettre a une couleur, chaque... et quand tu les composes, bah, tu arrives à retrouver l'essence de... Ouais, l'essence de la langue, quoi, qui est que chaque lettre est profondément expressive, chaque voyelle a sa propre expressivité. Un i, c'est une expressivité très particulière par rapport à un a ou un on, tu vois, en termes de voyelles. C'est... Le on va être très sombre, va être très fermé, va être rond, quoi, tu vois, alors que le i, c'est le clou, c'est la pointe, ça perce, tu vois. C'est... Donc cette expressivité fondamentale, j'ai envie de la faire sentir, voilà. Et si je fais ces tribus, ça me permettra. Donc les furtifs auront des phonèmes interdits, ce qui... Un peu comme les aborigènes qui ont, si tu nais sous le signe du serpent ou de la pluie, t'as pas le droit de sortir quand il pleut, tu vois, ou t'as pas le droit de toucher au serpent, t'as pas le droit de manger du serpent, c'est-à-dire ces fameux trucs totem, ton totem, tu as pas le droit de toucher, c'est sacré, quoi. Ben, eux, pareil, ils ont des types de sons ou de phonèmes qui sont sacrés, ils ont pas le droit d'utiliser. Bon, après, c'est tout un autre délire, ils ont l'ADN sonore, enfin bon, je peux pas raconter tout le truc, mais...
Bah non, non, non.
Mais voilà, ils sont structurés autour du son, quoi, ils sont structurés autour des vibrations sonores, donc...
Que d'ambition! Mais Alain Damasio s'en donne les moyens et il va arrêter de travailler 3 ans pour se consacrer à l'écriture de ce nouveau roman. J'ai hâte de voir ce que cela va donner, pas vous? Les lionnes à la convention, c'est fini. J'ai oublié maintes choses et vous invite à vous rendre à la prochaine convention organisée par Alain Lebussy à Esneux en Belgique, ou alors à celle de 2012 qui aura lieu à Orléans. Merci à l'équipe des Réveilleurs pour cette convention réussie. Je vous donne rendez-vous lors du prochain épisode des Lionnes de la SF. Et en attendant, n'oubliez pas, lisez beaucoup.
On a repris le cliché de la guerrière à gros seins.
Et oui, c'est ce que j'ai vu. Une remarque en passant, pour se battre, c'est très peu pratique.